15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed à mes côtés. Nous tentons de répondre à vos interrogations, de vous faire du bien. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'hypocondrie, le syndrome du malade imaginaire en quelque sorte. On essayera de comprendre pourquoi on devient hypocondriaque, quels sont les risques et surtout comment apaiser les personnes qui en souffrent, voire comment soigner ceux qui sont atteints de ce mal invisible. On répondra à toutes ces questions avec notre invité, le psychiatre Antoine Pellissolo. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va refaire un point sur le coronavirus. De nouveaux cas ont été détectés en France, un décès supplémentaire. Il nous dira comment peut-on éventuellement se protéger individuellement. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, on va parler d'une maladie chronique de l'œil, le glaucome. Savez-vous de quoi il s'agit? Et savez-vous également que non traité, cela peut causer une cécité? On fera le point, bien sûr. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux MST, aux maladies sexuellement transmissibles. On verra que certains en ont peur. Chez certains, ça peut même grandement perturber la sexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle d'Anthony qui nous a appelé de Toulouse.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, je cours régulièrement et j'ai souvent mal aux genoux. Et mon médecin, du coup, m'a conseillé de faire une arthroscopie. Et je voulais savoir, du coup, ce que c'était comme examen et comment ça se passait. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Jimmy, alors l'arthroscopie, précisément, c'est quoi ?
Alors l'arthroscopie, c'est une intervention chirurgicale qui permet d'explorer l'intérieur d'une articulation et d'y intervenir si besoin. Elle est réalisée à l'aide d'un arthroscope, qui est un petit appareil d'optique qu'on introduit dans l'articulation à travers d'une petite incision cutanée. On a un petit appareil d'optique qui est couplé à une caméra vidéo qui permet de voir à l'écran ce qui se passe. Et puis, si besoin, on peut intervenir sur l'articulation concernée.
Donc, vous dites l'articulation. J'imagine que ça peut être différentes articulations. Ça se déroule comment dans le détail ?
Le plus souvent, c'est le genou qui est utilisé. On peut, mais c'est beaucoup plus rare pour d'autres articulations comme l'épaule, la hanche, la cheville ou le poignet. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est pour le genou. Le chirurgien, au cours de l'arthroscopie, il regarde ce qui se passe. Et puis, s'il veut intervenir, il fait une ou deux petites incisions supplémentaires pour y introduire des ciseaux, des pinces et faire ce qu'il doit faire en fonction des lésions constatées.
Alors, pour quelle raison éventuellement, pour quelle cause médicale, on peut être amené à passer cette intervention ?
Fut une époque, on faisait beaucoup d'arthroscopie, notamment diagnostique, pour savoir ce qui se passait.
Désormais, cette époque, on dirait que vous avez 50 ans.
Non, mais il y a quelques années, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on en faisait énormément. Et puis, avec l'IRM, l'examen clinique, évidemment, ou d'autres examens d'imagerie, on en fait nettement moins à visée diagnostique. C'est plutôt thérapeutique. Avant, on ouvrait, on voyait ce qui se passe, et puis on traitait. Désormais, on traite essentiellement des lésions du ménisque. Lorsque vous avez un ménisque qui est fissuré, on décide parfois de retirer un petit morceau, fait des traitements conservateurs.
C'est un problème de sportif, ça, souvent, non, les
oui,
ménisques
que je
vous n'avez pas ça, vous.
Exactement.
Non,
parfois, lorsque vous avez un ligament croisé qui est rompu, on peut aussi le réparer. C'est moins invasif qu'une intervention classique. Et puis, parfois, on peut faire des lavages articulaires, retirer du liquide. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est plutôt les problèmes de ménisque qu'on s'occupe.
Merci beaucoup, Jimmy, pour ces précisions. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Chloé. On l'écoute.
Bonjour, Mélanie. Bonjour, docteur Jimmy Mohamed. Je viens de me faire opérer d'une myopie. Ça fait quelques jours et mes yeux pleurent toujours beaucoup. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je dois m'inquiéter ? Merci de votre réponse.
Alors, l'opération de la myopie, on en a déjà parlé dans son rendez-vous. C'est une opération très fréquente aujourd'hui. Rapidement, en quelques mots, Jimmy, rappelez-nous en quoi ça consiste.
Alors, la chirurgie de la myopie, c'est une opération mais qui se fait sous anesthésie locale et en ambulatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas hospitalisé, on ressort dans la foulée. Elle permet aux patients myopes, comme je l'ai été, de ne plus porter des lunettes ou encore des lentilles. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont très au point et qui sont très sûres. Couramment, on utilise le laser et ce qu'on appelle le resurfaçage de la cornée, qui sont le plus souvent utilisés. Il y a deux techniques, le LASIX ou ce qu'on appelle le PKR.
Vous avez eu le LASIX, non ?
Oui, exactement. Ouais. Alors, sans rentrer dans les détails, parce qu'on a fait une très bonne émission à ce moment-là, on vous invite à réécouter le podcast et aussi les autres, si ça vous dit. On avait détaillé toutes les techniques et si jamais c'était douloureux ou pas. On opère les deux yeux le même jour, donc sous anesthésie locale, on repart dans la foulée. La vision s'améliore très rapidement. On peut retravailler dès le lendemain après une intervention par le LASIX, par exemple. Mais il faut prendre quand même un petit traitement durant plusieurs jours qu'on doit mettre dans les yeux.
Et justement, alors pour répondre à la question de Chloé, c'est normal d'avoir les yeux qui coulent, enfin qui pleurent un peu comme ça trois jours après l'intervention, rapidement, dites-nous.
Alors ce qu'il faut se dire, c'est que évidemment, comme l'œil a été un peu traumatisé, on l'a un peu titillé, il va y avoir un peu de sécrétion, on va avoir des petits larmoiements, mais évidemment qu'on vous donnera des gouttes, et notamment avec le LASIX en règle générale, on a un peu plus de découlement, mais il ne faut pas s'inquiéter, le chirurgien vous prévient, et s'il y a le moindre signe, vous devez reconsulter.
Ok, justement, en ce qui concerne les gouttes prescrites pour plusieurs semaines après l'opération, à quoi servent-elles? On écoute les précisions d'un grand spécialiste, le docteur Gatinel, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild.
Après une chirurgie réfractive au laser, il est habituel de prescrire aux patients trois types de colliers. Des antibiotiques à large spectre pour prévenir une infection. Ensuite, on donne des colliers anti-inflammatoires qui contiennent des dérivés de la cortisone, le but étant de contrôler l'inflammation post-opératoire qui est toujours présente quand on est en phase cicatricielle immédiate. Et enfin, les troisièmes catégories de larmes sont des colliers mouillants, des larmes artificielles, des gels lubrifiants qui pallient la sécheresse oculaire qui est habituelle au décours immédiat d'une chirurgie réfractive. Les antibiotiques et les anti-inflammatoires sont généralement prescrits pour une durée de 3 à 4 semaines. Concernant la prescription des larmes artificielles, elle peut durer plus longtemps, autant que nécessaire. Donc il est important de bien expliquer au patient qu'il peut faire renouveler son ordonnance de larmes ou de colliers artificiels pour continuer autant que nécessaire dans le temps après l'intervention.
Voilà pour la réponse du docteur Gatinel. Alors si vous aussi, comme Chloé, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du coronavirus. On va refaire un point et puis on accueillera aussi notre invité, le psychiatre Antoine Pellissolo, qui va tout nous dire sur l'hypocondrie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors à présent, c'est le conseil du bon docteur, c'est le bon conseil du docteur Jimmy Mohamed.
Mais du bon docteur, allez-y aussi.
Du bon docteur aussi, du docteur Jimmy Mohamed, pardon. Je sais pas, j'ai fait ma langue à fourcher. Ouais, je sais pas.
Bon, d'accord.
Aujourd'hui, donc, on parle d'un sujet d'actualité. En ce moment, on entend tous parler évidemment du coronavirus. On va faire une petite mise au point avec vous, Jimmy, sur quelques informations ou interrogations qui peuvent circuler en ce moment. Tout d'abord, si on pense avoir des symptômes du coronavirus, on consulte qui?
Alors, dans un premier temps, le coronavirus, si on pense l'avoir, c'est surtout des signes respiratoires, avec fièvre ou sensation de frisson. Et si on revient d'une zone à risque dans les 14 jours qui précèdent les symptômes, la zone à risque, pour l'instant, c'est la Chine, Singapour, la Corée du Sud, l'Iran, et puis certaines régions de l'Italie, la Lombardie, la Vénétie. Pour tout le reste, si vous avez des symptômes, c'est probablement la grippe, donc on n'a pas besoin de se ruer aux urgences. Et surtout, on appelle plutôt le 15, et c'est le 15 qui décidera s'il faut vous faire hospitaliser. En revanche, si vous avez des questions sur le coronavirus, vous avez des inquiétudes...
On vous appelle vous directement.
Alors, vous pouvez, mais bon, je risque de moins répondre. Mais vous avez un numéro mis en place par le ministère de la Santé, qui est le 0800 130 000, et eux vous donnent des conseils. N'allez pas encombrer les lignes du SAMU lorsque vous avez des questions sur est-ce que je dois aller faire des courses, des provisions. C'est pas leur problème. Les questions, c'est sur le 0800, un numéro vert mis en place par le gouvernement.
Très bien. Alors, je reviens d'une zone à risque. Imaginons comme Milan. Je dois être placé à l'isolement pendant 14 jours. Il y a des gens à qui ça arrive en ce moment en France. Est-ce que mon médecin traitant peut m'arrêter?
C'est une situation que les médecins sont en train de rencontrer en ce moment. Il y a un décret du 1er février qui dit que les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou d'un maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier au titre de cet arrêt de travail des indemnités journalières. Donc on peut être arrêté, mais ce n'est pas le médecin traitant qui arrête, c'est l'ARS de votre région,
l'Agence régionale de santé,
qui se met en relation avec votre employeur et le médecin de l'ARS qui pourra vous arrêter durant une durée maximum de 20 jours sans délai de carence. Et même si vous n'avez pas forcément cotisé suffisamment, vous serez indemnisé. Donc 20 jours au maximum, mais par le médecin de l'ARS et pas votre généraliste qui fera l'arrêt de travail.
D'ailleurs, pourquoi les masques chirurgicaux qu'on peut acheter en pharmacie comme ça, enfin si on en trouve, sont pas suffisants? On peut se fier à ceux qu'on trouve sur internet parce qu'il y en a plus dans beaucoup de pharmacies.
Exactement. Alors les masques chirurgicaux, ils sont faits pour éviter de contaminer les autres. Souvent, des mamans l'utilisent lorsqu'elles ont un enfant et qu'elles allaitent. Elles ont
la grippe, je m'occupe de mon bébé.
Exactement.
Je...
Ces masques-là, on dit qu'ils sont pas efficaces, mais ils sont bien pour une chose, c'est que en fait, ils filtrent 95% des bactéries. En revanche, le problème de ces masques, c'est qu'ils sont très peu étanches. Et donc, il y a énormément de fuites, il y a peu d'études qui l'ont évalué, mais il y a quand même entre 40 et 100% de fuites, raison pour laquelle ces masques doivent être utilisés pour ne pas contaminer les autres et pas pour se protéger des autres. Si vous devez en acheter sur Internet, je vous le déconseille sur certains sites parce que les prix flambent, il y a une norme qu'il faut utiliser, qu'il faut regarder, c'est NF ou EN 14683. Okay. S'il n'y a pas cette norme, on évite. Et puis après, il y a les masques type canard, FFP2, FFP3, mais ça c'est pour les professionnels de santé, c'est pas destiné au grand public.
Oui, c'est pour se protéger éventuellement des gens malades, pour l'instant effectivement recommandé uniquement pour les professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on peut dire juste pour terminer, Dimi, du fameux traitement? On a entendu parler d'un traitement, la chloroquine, un tupaluidéen, dans le coronavirus, ça marche, ça marche pas?
C'est vrai qu'il y a un effet un peu de buzz, il y a du fantasme, on est content de trouver un traitement, or ce traitement n'a jamais, dans l'état actuel des connaissances, n'a jamais été traité sur l'homme, n'a jamais fait preuve de son efficacité en dehors dans des conditions de laboratoire,
donc in vitro.
Ça ne veut pas dire que in vivo, c'est-à-dire que sur l'homme, ça marche. D'autres études doivent être menées.
Rigoureuses, avec des groupes contrôles, des patients qu'on compare à d'autres.
De la même façon que peut-être que in vitro, dans des laboratoires, si on mettait de l'eau de Javel, de l'alcool, le virus serait détruit. Ça ne veut pas dire pour autant que chez l'homme, ce traitement serait adapté. N'oubliez pas que ce traitement, il peut avoir des effets secondaires graves, irréversible, des troubles du rythme cardiaque, donc c'est un médicament qu'on surveille, et puis une toxicité oculaire.
Donc si vous reste des restes de chloroquine à la maison d'un voyage,
pour le paludisme, on l'utilise surtout pas. On l'utilisait à l'époque, d'ailleurs il est de moins en moins utilisé, c'est la Nivaquine, c'est le nom commercial mais tout le monde la connaît. On vous déconseille ce traitement, pas de fantasme et ne diffusez pas de fausses informations.
Merci beaucoup docteur Dimi Mohamed pour cet éclairage. À présent on passe donc à notre dossier du jour.
Je vois rien. Si, regardez, il y a une tache là, regardez, j'ai une grosse tache très préoccupante.
Ça, c'est la partie basse du diaphragme.
Bon, faut achetez-vous des lunettes, mais...
Ah, s'il vous plaît, vous êtes le docteur qui d'abord?
Quoi? J'ai mal au crâne, j'ai la nuque très raide.
Va te coucher.
Je fais une rupture d'anévrisme.
On va avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme.
On a tout d'un coup, vous aurez reconnu Danny Boone dans son film Superchondriaque, un film qui parle de notre thème du jour, l'hypochondrie. Et pour en parler, nous accueillons le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Pellissolo.
Bonjour.
Alors on a un petit peu plaisanté avec cet extrait, mais c'est une maladie très sérieuse, donc on va redevenir sérieux bien évidemment. D'abord l'hypochondrie, médicalement parlant, est-ce qu'il existe une définition précise ?
Oui, on dit plutôt maintenant l'anxiété pour la santé, l'anxiété sur la santé. Historiquement, c'est la conviction d'être malade, enfin l'impression ou la conviction plus ou moins forte d'avoir une maladie de manière répétitive, parce qu'évidemment, on a tous eu à un moment donné une crainte sur ce genre de choses, un symptôme, un bouton, enfin, etc. Mais les personnes qui en souffrent ont ça un petit peu en continu et de manière durable.
Dimi ?
Il y a différents degrés dans l'hypochondrie, ça va de quoi à quoi et quelle serait la pire des situations ?
Alors, ça va effectivement du normal, vraiment, encore une fois, répandu. Normalement, dans les préoccupations, on a tous
peur d'être malade,
on
c'est
a tous,
normal.
Voilà, ouais. Et c'est plutôt bien pour se protéger d'un certain nombre de choses. Mais après, ça peut être un peu plus. En gros, nous, on parle d'anxiété vraiment anormale, pathologique, quand vraiment ça se répète. Alors, ça peut se répéter très souvent, ça peut se répéter de manière très intense.
Et tous
effectivement,
les jours ?
Oui, à l'extrême, vraiment. Et l'extrême aussi, c'est l'intensité. Ça veut dire que certaines personnes ont des idées en dehors de la réalité, hein, on peut appeler ça des idées
par
délirantes,
exemple.
Sur l'existence d'un trouble. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, convaincus d'avoir le cancer. On a fait X examens. Le médecin lui dit non, vous n'avez rien. Ils disent si, je suis convaincu d'avoir quelque chose. C'est souvent moins construit que ça. C'est j'ai les organes qui se détruisent, enfin des choses comme ça, qu'on voit de manière assez exceptionnelle, par exemple, dans des dépressions graves.
D'accord. Si on revient juste pour terminer à l'étymologie du mot hypochondrie, ça vient d'hypochondre, je crois. C'est quoi l'hypochondre ?
Alors, l'hypochondre, c'est une région qui est en haut de l'abdomen, sous les côtes. Hein, ça s'appelle comme ça, hypochondre. Tout simplement parce que je crois que nos prédécesseurs médecins de l'Antiquité situaient l'origine de cette forme d'anxiété à cet endroit-là. Enfin, que c'était une localisation de toutes les inquiétudes sur la santé.
Et juste en population, c'est très fréquent l'hypochondrie, on l'estime ou pas ?
Alors, on n'a pas de chiffres, mais je pense qu'une tendance hypochondriaque est fréquente. Un trouble anxieux un petit peu sévère constitué, c'est moins fréquent. C'est probablement quelques pourcents de la population quand même.
2-3, quelque chose comme ça, ouais, d'accord. Ouais. Professeur Pellissolo, merci, on n'en a évidemment pas terminé, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on va rentrer un peu plus dans le détail des hypochondriaques. Pourquoi on se met tout d'un coup à souffrir de cette pathologie ? Y a-t-il des déclencheurs ? Vous verrez que tous les hypochondriaques, contrairement à ce que l'on pense, ne passent pas leur vie chez le médecin. Certains adoptent plutôt la politique de l'autruche avec un trouble anxieux encore plus sévère parfois. On vous dira tout, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes bien évidemment tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Dimi Mohamed et notre invité, le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Professeur Pellissolo, avec vous aujourd'hui, donc, on fait un point sur l'hypochondrie. Est-ce qu'il y a des profils de gens plus à risque de devenir un jour hypochondriaque ou pas du tout ?
Alors, c'est difficile de donner un profil unique, mais en général, il y a une tendance à l'anxiété un peu dans le tempérament de la personne, on a une nature anxieuse. Et puis, par ailleurs, probablement un parcours de vie qui a exposé quand même à la maladie, soit auprès de ses proches, donc des événements souvent assez marquants, dans l'enfance, par exemple, d'un grand-parent ou d'un parent malade qu'on a côtoyé de près. Donc, ça peut être quasiment traumatisant d'une certaine manière. Et puis il y a aussi les propres maladies qu'on peut avoir, parce que l'hypocondrie n'est pas du tout antagoniste d'une vraie maladie par ailleurs qui peut toucher le corps. C'est le vrai de certaines maladies chroniques ou lesquelles on se sent fragile.
Les gens donc, diabétiques,
un diabète, ouais. Une maladie de système par exemple. Moi j'ai beaucoup d'exemples en tête de gens à qui on explique qu'ils ont une maladie qui n'est pas forcément grave mais qui est chronique et qui peut décompenser sur différents types de symptômes et donc ils sont en permanence inquiets.
Un asthme, ça aussi, ça pourrait peut-être angoisser, c'est ça?
Voilà, ouais. Voilà, c'est tous les situations dans lesquelles on peut se sentir vulnérable et sur lesquelles on va être un peu à l'affût des symptômes. Et le problème, c'est qu'en étant à l'affût, on va être hyper vigilant et on va sûrement grossir des petites choses qui, en fait, ne le méritent pas.
Jimmy ?
Est-ce que l'hypocondrie, c'est une maladie de nos temps modernes, puisqu'il y a quand même des gens célèbres, des gens parfois avec du pouvoir très puissant, qui ont été touchés, par exemple, par l'hypocondrie ? Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de pouvoir et de plus contrôler certaines choses comme la maladie, ça rend finalement un peu phobique ?
Peut-être. Alors, je crois que ça a toujours existé, hein, puisqu'on a voilà, les définitions
viennent
de la littérature,
de l'Antiquité. Tolstoï aussi. L'était, soi-disant, Rousseau aussi.
Et c'est de toute façon naturel pour je pense, dans l'expérience humaine. C'est-à-dire, on sait qu'on va mourir, on sait qu'il y a des maladies. Donc, alors, l'évolution, il y a l'évolution moderne, je pense qu'on en parlera, de l'information, etc., des techniques. Alors, après, le pouvoir, je n'ai pas trop creusé la question, mais on peut imaginer qu'effectivement, il y a cette dimension de ne pas avoir
c'est
le contrôle
sur tout. Qu'il y a des présentateurs télé très célèbres ou radio. Pour ça. Donc, est-ce que le fait d'être très exposé comme ça, peut-être, ça peut...
Je ne crois pas. Enfin, je pense que la prévalence est telle que ça peut toucher un peu n'importe qui. Donc, des personnes...
Alors, comment elle apparaît, cette maladie ? Vous avez dit que ça peut être par rapport à un traumatisme dans l'enfance, par exemple, ou même un peu plus tard, avoir été exposé à la maladie de façon très proche avec un parent malade, très malade. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui apparaît brutalement ou ça se construit ? Parce que vous avez dit, il y a parfois un traumatisme, mais on ne devient pas forcément hypocondriaque le lendemain, quoi, c'est ça ?
Non, bien sûr, ça peut être à retardement, et puis ça peut être progressif. Donc il y a aussi des gens qui ont probablement une sensibilité comme ça ancienne qui s'installe petit à petit. Ça ne sera pas du jour au lendemain, ça sera une première séquence pendant quelques semaines, et puis on va pouvoir s'apaiser, et puis ça revient. C'est vrai que ce n'est pas non plus toujours en permanence hein, toute la vie. Ça peut être aussi des séquences en fonction aussi des événements, du sentiment de fragilité, de l'actualité. Bon, voilà, on est dedans.
En ce moment, ça ne doit pas être terrible. Hein. Voilà. Ils ne doivent pas se sentir bien, les pauvres.
Tout à fait. Et puis aussi du sentiment de ressources, parce qu'il y a des moments où on est plus fatigué, on est plus stressé, et donc on se sent plus vulnérable.
Jimmy ?
J'ai le souvenir d'un patient dont le père est mort d'un cancer du cerveau, et du coup, le patient est persuadé qu'il y a une forme d'hérédité, et que lui aussi aura un cancer du cerveau. Et donc, au moindre mot de tête, il consulte et il fait des IRM à tout va, parce qu'il se dit... Mon IRM est normal aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, j'aurai un cancer. Est-ce que parfois, le fait de voir la maladie chez les autres, chez un proche ou un accident, ça peut nous rendre hypochondriaques alors qu'on ne l'était absolument pas au début?
Oui, c'est assez classique. Et effectivement, c'est souvent le parent, le père, la mère, et surtout au moment où on arrive à l'âge en question, au l'âge où c'est arrivé.
Ah oui, c'est vrai, il disait, il est mort à 35 et ans, voilà. 40 ans.
Ah, il bloquait sur
moi,
l'âge.
J'approche de cet âge-là, je suis persuadé que c'est pour moi.
Alors évidemment, on sait bien, nous, on le rassure en disant qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a rien de, évidemment, qui le met en danger à cet âge-là. Mais évidemment, ça, c'est très marquant, là, dans l'image, dans la peur profonde.
Et là, c'est une fixette bien sur une maladie, comme dit Jimmy. Là, son papa était mort d'un cancer du cerveau. Donc lui, il se dit, je vais forcément avoir un cancer du cerveau. Et c'est son obsession.
En général, c'est pas un raisonnement aussi tranché, parce que en prenant un peu de distance, ils comprennent que ce n'est pas automatique, mais c'est une pression qu'on a à l'intérieur de soi, et donc ça va se focaliser sur la même maladie. Parfois, c'est des choses un peu dérivées, c'est pas forcément exactement la maladie en question, mais on se sent plus vulnérable, et surtout, on a besoin de se rassurer, donc de vérifier qu'on n'a pas la chose.
Est-ce qu'il faut répondre aux demandes justement des patients qui sont hypochondriaques, qui veulent faire des examens, donc il a fait une IRM, et puis dans 6 mois... Si
là, vous avez besoin de conseils, vous envoyez des hypochondriaques.
Non, mais on se demande, est-ce qu'il faut faire des examens ou est-ce qu'on doit s'arrêter dans les examens, parce qu'on commence avec une prise de sang, et puis on peut faire une écho, un scanner, une IRM.
Alors la réponse du psychiatre généraliste, du coup.
C'est un vrai sujet, non, bien sûr, c'est un vrai sujet, puisqu'on sait qu'on risque d'être iatrogène, comme on dit, c'est-à-dire d'aggraver les choses si on n'agit pas exactement comme il faut. C'est compliqué, il faut trouver la bonne distance. Moi, le conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas changer sa manière de faire sous prétexte que la personne est anxieuse. Il faut lui expliquer, faire beaucoup d'informations, mais ne pas aller au-delà. Parfois, on peut céder une fois, je dirais, mais dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, effectivement, il y a toujours, aujourd'hui, d'autres examens qu'on n'aura pas fait, qui ne seront pas lus de la même façon, un peu plus tard.
Un deuxième avis aussi.
Bien sûr, ouais. ça c'est vraiment la règle, c'est toujours « je vais voir quelqu'un d'autre ». Bon, il y a la question de la confiance, il y a la question de la, vraiment de se confier à quelqu'un, c'est le terme, parce que ça veut dire que c'est lui qui va décider à ma place. Et normalement, un professionnel de santé, c'est son travail.
Mais ces patients hypochondriacs, ils consultent vraiment tous à tour de bras des médecins, leurs généralistes, enfin, ou pas d'ailleurs?
Alors pas tous. C'est vrai que la tendance, c'est ça, c'est quand même de multiplier les consultations et surtout les examens. Et aujourd'hui, en France, c'est vrai que c'est faisable, c'est-à-dire qu'on peut changer de médecin, on peut aller voir tel ou tel laboratoire. Donc la majorité, malheureusement, sont exposés à ça. Et on sait que c'est un cercle vicieux, parce que plus on le fait, plus on aura besoin de le faire. Ça, c'est mécanique. Et il y a une part des hypochondriaques, on va dire, qui font ce que j'appelle l'autruche, c'est-à-dire qu'ils vont, plutôt que de se confronter avec le risque d'avoir un résultat qui sera un cancer ou telle ou telle maladie, ne veulent pas savoir.
Ils vont jamais voir le
docteur. Ils y pensent tout le temps, ils y pensent tout le temps, mais ils ne veulent pas savoir.
Ça les bouffe,
ça les bouffe. Ils ont des douleurs, mais ils ne veulent pas consulter. Allez, faites une écho, vous verrez que tout sera normal. Ah non, mais j'ai peur qu'on me trouve quelque chose. Non. Mais ils sont persuadés d'avoir quelque chose. Donc
déjà, ils vous en parlent, mais il y en a certains qui probablement ne viennent pas nous voir parce qu'ils sont tellement effrayés par les conséquences de ce qu'ils évoquent de manière ultime, c'est-à-dire le plus grave qui pourrait arriver, même si c'est un pourcentage faible en fait de ce qui pourrait être trouvé. Mais malheureusement, évidemment, c'est un évitement la totale de ce qu'ils redoutent le plus.
Vous dites donc que ce trouble, donc l'hypochondrie, je sais pas, on dit maladie, trouble d'ailleurs, on dit quoi?
En psy, en général, on dit trouble.
Trouble, vous n'aimez pas trop maladie, ça dépend. C'est un trouble en tout cas. Ces gens-là, vous dites qu'ils ont besoin de se rassurer en permanence, parfois dans les pires cas, du matin au soir. Vous avez des cas de patients, je demande chez qui ces vérifications médicales, elles sont tellement, tellement importantes, tellement fréquentes que ça leur pourrit la vie et ça les empêche de faire quelque chose. C'est ça d'ailleurs le critère de gravité, je crois.
Oui, quand vraiment ça influe sur votre vie quotidienne, ouais. Et puis souvent les rapports avec les autres, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à en parler à leurs proches, donc les proches n'en peuvent plus. Alors les conséquences, c'est effectivement le nombre d'examens. Moi, je me souviens d'un patient qui très souvent se retrouve aux urgences parce qu'il a l'impression, il a peur d'avoir une avalée de travers et donc d'avoir un corps étranger au niveau pulmonaire et donc des radios, des scanners. Très souvent. Il est assez informé, je dirais, et donc il sait très bien qu'est-ce qu'il faut demander au médecin pour aboutir au résultat. Et ça se répète. C'est du temps passé, et puis surtout, c'est des angoisses permanentes. Donc, on voit bien la répercussion.
Et puis, à Pierre et Leloup, le jour où vous avez quelque chose, peut-être qu'on ne vous croira pas. Mais est-ce que Internet n'a pas augmenté le nombre d'hypochondriaques, puisque finalement, l'accès à l'information est sans fin?
Alors peut-être le nombre et en tout cas l'intensité pour ceux qui y sont exposés, puisque là aussi, il y a un réservoir infini d'informations. Et on va tout de suite sélectionner celle qui nous angoisse le plus. Donc évidemment, il y a un effet d'amplification. Même si au départ, bon, évidemment, je crois que vous êtes là pour ça aussi, l'information médicale, c'est important. Il faut juste connaître ses limites et de savoir que si on a soi-même cette angoisse-là, il vaut mieux laisser tomber l'information directe comme ça, se confier à son médecin qui vous donnera les informations et éviter de chercher une vérification. C'est vraiment un peu comme dans les troubles obsessionnels compulsifs.
Ça s'appelle la cyberchondrie, non, je crois même. Alors, il y a un terme spécifique.
La cyberchondrie, voilà, parce qu'on a un réservoir d'informations en accès direct et sans explication qui permet de personnaliser les choses.
Merci professeur Pedissolo. Nous allons continuer cette discussion dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons continuer donc à parler d'hypochondrie, des stratégies de certains patients pour avoir toujours plus de consultations, d'examens, mais aussi évidemment des traitements. Le syndrome du malade imaginaire, ça se soigne justement. Je ne sais pas si lui aussi, il est malade imaginaire, mais en tout cas, il parle de ce trouble en musique. On écoute le chanteur Calogero. Ça s'appelle évidemment « Hypochondriaque ».
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Antoine Pellissolo. Il est chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Professeur Pellissolo, avec vous, donc on fait le point sur l'hypochondrie aujourd'hui. Il y a quelques minutes, on a parlé notamment des facteurs déclenchants, de certains traumatismes. Mais chez les hypochondriaques, est-ce qu'il y a des maladies préférées? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un monsieur qui avait peur de s'étouffer tout le temps, d'avoir des corps étrangers. Mais est-ce qu'il y a, je sais pas, des organes, des virus, des maladies qui ressortent plus souvent dans leurs grandes craintes?
Oui, alors il y a à la fois les faits de la gravité, donc les maladies mortelles évidemment sont les plus exposées puisqu'on anticipe le pire, donc le cancer, pendant longtemps il y avait le sida qui notamment quand on n'avait pas de solution angoissait tout le monde, donc ça c'est les grandes constantes, et puis après il y a les fixations sur son histoire personnelle qui fait que ça peut être un peu n'importe quoi parce qu'on va avoir une fixation sur un événement qui a pu le déclencher. Mais c'est vrai que c'est souvent les maladies plus graves et puis celles dont on parle beaucoup quand même dans les médias, évidemment, celles qui seraient sensibles, par exemple, à la diffusion aux épidémies, évidemment.
Là, qu'est-ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus? Vous vous voyez déjà un impact, vous, en consultation? Alors, en psychiatrie, peut-être pas déjà,
dans,
mais...
Pas en psychiatrie, ouais. Je dirais très spécialisée, mais dans l'inquiétude des gens sur oui, et puis les consultations aux urgences, on sait bien.
Parce que vous ne voyez pas que des hypochondriaques, vous voyez aussi, j'imagine, au quotidien des patients qui souffrent de troubles de l'anxiété, qui ne sont pas hypochondriaques, mais chez qui ça inquiète, là, ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, parce que forcément, on se pose plein de questions, et les anxieux, par définition, supportent mal l'incertitude et tout ce qui sera à risque. Et aujourd'hui, je pense qu'on risque de confondre un peu le fait qu'il faut prendre beaucoup de précautions pour éviter que l'épidémie s'étende. Donc beaucoup de mesures qui sont très impressionnantes et quelque chose qui serait grave tout de suite pour tout le monde.
C'est pas parce qu'on prend des grandes mesures que c'est grave, il faut dire ça aux gens. Pour les rassurer, vous dites ça?
Bien sûr, parce que les médias, les politiques sont obligés d'alerter pour faire en sorte que l'épidémie, en gros, s'éteigne d'elle-même.
Et que les messages passent, et que les gens les appliquent.
Ouais. On a ces moyens-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on est en danger chacun. Je crois que c'est là qu'il faut essayer de relativiser et ce n'est pas simple.
C'est ça que vous expliquez aux patients, vous. Ouais. Jimmy?
Est-ce qu'au quotidien, le patient hypochondriaque peut adopter des stratégies pour un peu essayer de berner un peu le médecin et avoir des examens qu'il voudrait absolument passer pour être rassuré? Est-ce qu'il adopte des petits moyens de ruse, si on peut appeler ça comme ça?
Oui, alors c'est toujours bon, de bonne foi, hein, évidemment. Il n'y a pas de volonté
de nuire ou de
tromper. Mais c'est vrai que par inquiétude, on va imaginer des choses qui permettront, je disais tout à l'heure, d'avoir tel examen qu'on n'a pas eu, en ayant vérifié sur Internet quels étaient les symptômes qui pouvaient le justifier, ça c'est vrai. Et puis parce que ces patients-là sont effectivement très renseignés. On a beaucoup de professions médicales aussi, je ne l'ai pas dit dans les patients.
Je ne sais pas pourquoi, moi, qui travaille avec des médecins depuis des années, ça ne m'étonne pas du tout.
Alors là aussi, il y a les deux versants. Il y a des médecins qui ne veulent pas savoir et qui ne se soignent pas du tout. Pas terrible. Mais il y a aussi ceux qui sont, on a tous connu ça pendant nos études, on voit tel tableau et puis tout de suite, là, parce que évidemment, ça évoque des choses.
Ça vous parle, Jimmy?
Oui, non, mais je reconnais qu'à une époque, j'avais mal à l'orteil, j'étais persuadé d'avoir une crise de goutte, et la crise de goutte du sujet jeune, c'était la leucémie. Et donc, j'étais persuadé d'avoir une leucémie.
Tout ça pour mal à un orteil, vous imaginez, professeur?
Donc, j'étais faire une prise de sang pour être sûr que mes globules blancs n'étaient pas dans les chaussettes, mais j'embêtais personne, moi. Voilà, j'ai fait mon diagnostic tout seul, je me suis fait un peu peur. Mais vous avez raison sur les stratégies que les patients ils se renseignent. Je me souviens quand j'étais interne à Cochin, il y avait une patiente qui venait toutes les semaines ou parfois plusieurs fois par jour décrivant des symptômes d'infarctus ou d'embolie pulmonaire. Et elle connaissait les symptômes par cœur, elle nous les récitait de A à Z, et donc on est obligé d'accéder un peu à sa requête parce qu'au bout d'un moment, on se dit...
Et parce que justement, d'ailleurs, je crois, vous m'avez expliqué ça en préparant l'émission, professeur Pellissolo, mais les symptômes, ils les ressentent vraiment?
Bien sûr, bien sûr. Les symptômes, c'est souvent des signes assez banals, c'est une douleur fonctionnelle normale, mais simplement l'effet du stress et de l'hyperattention fait que ça grossit énormément. Donc il ne faut pas leur dire, vous n'avez rien.
Par exemple, le mal au ventre, c'est quoi
bien
par
sûr,
exemple
le
comme
mal
symptôme
au ventre, donc tous les troubles du transit, on parlait des organes touchés, c'est souvent le tube digestif, par exemple, les gens qui sont persuadés que s'ils sont constipés, c'est qu'il y a une tumeur, un cancer. Donc la constipation, c'est un sujet de préoccupation
fréquent. Ça revient souvent en consultation.
La dermato, parce que le bouton, le risque de mélanome, etc. Et donc, on est en permanence à se scruter. Et j'ai oublié votre question.
Non, mais du coup, voilà, c'est ça. Est-ce que ces symptômes-là, ils les ressentent physiquement, alors, vraiment?
Le plus souvent, il y a un point de départ. C'est-à-dire que ce n'est pas imaginaire au sens de la sensation. Le problème, c'est de confondre une sensation avec un symptôme. Et là, l'information à donner, l'éducation, c'est que des signes peuvent être liés à plein de choses différentes. C'est vrai que par moment, il faut dépister telle ou telle maladie, on l'apprend, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a ce symptôme-là, que c'est forcément cette maladie, en tout cas cette maladie grave. Évidemment, il y a plein de causes et le corps est en permanence, toujours ce que je dis, c'est en permanence déséquilibre, c'est-à-dire on passe notre temps, le corps s'adapte à plein de choses, donc il se passe plein de choses dans mon corps, on n'en a pas conscience d'habitude, quand on est hypochondriaque, on est hyper attentif à ces changements bénins.
Et est-ce que l'imaginaire peut devenir réel? C'est-à-dire, est-ce que tant de stress, parce que vous avez dit, c'est quand même un trouble anxieux énorme, est-ce que finalement, justement, c'est pas un risque d'être toujours stressé, anxieux, je sais pas, de développer de l'inflammation et de développer des vraies maladies à force d'être autant stressé? On sait que le stress, c'est bon pour rien. Non, moi, je suis pas hypochondriaque du tout, mais je me dis, c'est pour gens tout stressés, ça doit développer de vraies maladies au bout d'un moment.
Il faut se poser la question. Ce que l'on sait, c'est que l'anxiété chronique intense est un petit facteur de risque, un petit au sens de, il ne faut pas le maximiser.
On va leur faire encore plus peur.
Voilà, c'est un petit facteur de risque cardiovasculaire, peut-être un peu inflammatoire, métabolique, à très long terme. Donc ce n'est pas parce que vous êtes inquiet maintenant que vous allez mourir de ça maintenant. Non, par contre, les conséquences négatives, c'est plutôt de ne pas consulter à bon escient, si jamais on ne veut pas le faire, d'avoir un peu d'usure du médecin qui, vous disiez, Pierre Leloup, enfin appelé au loup tout à l'heure, parce que c'est à la fin, on finit par ne plus se méfier de choses réelles, ou on diffère, on procrastine. Donc c'est plutôt les conséquences indirectes qui peuvent être gênantes pour la santé. Sinon, c'est le stress. Et le stress, on sait que c'est pas terrible. Hein. Ça peut rendre plus fragile, mais ce n'est pas quelque chose de gravissime.
Mmh. Jimmy ?
Après, à terme, le vrai hypochondriaque, celui qui a un retentissement social, s'il ne peut plus sortir de chez lui, ne plus voir d'activité physique, du coup, il devient sédentaire et donc il peut aussi développer des maladies cardiovasculaires à cause, entre guillemets, que d'un...
Oui, alors c'est un peu extrême là aussi, mais ça peut être une conséquence.
L'hypochondriac, finalement, il arrive encore à vivre dans la société.
Oui, quand même,
et à
la majorité.
Pas comme dans les autres troubles obsessionnels compulsifs.
La majorité, oui. Après, il y a des formes finalement plus développées, souvent liées à d'autres maladies associées, la dépression grave, des syndromes, je vous disais, quasiment délirants par moment, où là, ça peut chambouler effectivement complètement l'existence.
Et ces gens-là, qui souffrent donc d'hypochondrie, parfois, malheureusement, ça leur arrive, leur pire crainte, ils tombent malades. Est-ce que ça les soulage pas finalement? Comment ils réagissent en général, quand la maladie finalement elle est bien là, c'est prouvé, c'est écrit sur un papier, vous confirmez le diagnostic?
Alors, je pense que en général, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais
on souhaite à personne évidemment.
Et je pense que dans ces cas-là, tout dépend de la qualité de l'environnement et de la manière dont c'est présenté, parce que effectivement, il faut tenir compte encore plus dans ces cas-là, dans l'accompagnement du patient, du fait qu'il est très inquiet, très anxieux, pour être plus présent avec lui. Je suis pas sûr que ça change grand-chose.
C'est pas un soulagement, c'est bon. Je le craignais finalement, c'est là. Je me disais que ça pourrait les apaiser brutalement.
Ça peut arriver à certains, mais surtout que c'est pas en tout ou rien. C'est pas je suis malade, je suis pas malade. C'est beaucoup de gens, je vous disais, qui ont déjà une maladie ou un truc, quelque chose qui les fragilise. Donc c'est plutôt l'aggravation et il y a des séquences.
Est-ce que ce seraient des gens qui seraient un peu plus sensibles à l'effet placebo? Vous parliez tout à l'heure des douleurs abdominales, quelque chose de très fréquent. Si on répond à leur demande, non pas en termes d'examen, mais on dit écoutez, je comprends votre douleur, je ne dis pas que vous simulez, je vais vous donner un traitement.
Tenez un petit Haribo rouge.
Voilà. Non mais de l'homéopathie ou peu importe, quelque chose qui pourrait les soulager, est-ce qu'ils sont plus réceptifs à des traitements alternatifs qu'aux autres, la méditation ou peu importe?
Alors, on pourrait l'imaginer. Je ne crois pas qu'il y ait énormément d'études sur la réponse au placebo directement liée à l'hypochondrie. Par contre, moi, je dirais que d'expérience, c'est un peu aussi l'inverse. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très sensibles aux effets nocebo, c'est-à-dire les effets négatifs, les effets secondaires potentiels des médicaments, et pour lesquels, par exemple, on a du mal à prescrire, par exemple, des psychotropes, parce que très vite, ils vont avoir plein d'effets secondaires. Ils ont lu la notice en général, donc on sait que ça amplifie aussi les risques. Ils sont très sensibles au niveau corporel, tout simplement. Et c'est vrai que là aussi, ce n'est pas des effets secondaires imaginaires. Ils ont réellement les choses. Et c'est parfois très compliqué de leur prescrire des traitements, même si pour certains, ils ont une certaine appétence avec certains médicaments.
Alors justement, on passe au traitement de l'hypochondrie, parce que la bonne nouvelle, c'est que quand même, on sait les prendre en charge aujourd'hui. Professeur Pellissolo, je crois que déjà, il y a quelques conseils que ces patients, donc hypochondriaques, peuvent mettre en place chez eux. Des choses, en gros, pour se détendre, c'est ça? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Oui,
déjà au domicile, qu'est-ce qu'ils peuvent faire tout seuls?
Domicile ou à l'extérieur, c'est vraiment essayer d'améliorer leur niveau d'anxiété générale, le niveau de stress, parce que c'est vraiment un trouble anxieux. Donc tout ce que l'on peut enseigner, et c'est maintenant assez courant, en termes de technique, de relaxation surtout, respiration, méditation éventuellement, pour avoir un meilleur... pas forcément le contrôle du corps, mais une sensation de bien-être avec son corps. Donc c'est quand on s'aperçoit qu'on arrive à avoir déjà un petit effet direct positif, c'est déjà rassurant. Les hypochondriacs ont tendance à craindre leur corps et à se sentir comme ça défaillant tout le temps. Donc c'est un accompagnement utile. Tout ce qui est bien-être par ailleurs, l'activité sportive, le fait de faire marcher son corps et de se rendre compte qu'il fonctionne bien, ça peut être tout à fait bénéfique. Et les mesures d'hygiène, comme on dit, émotionnelles, générales. Oui.
Jimmy ?
À partir de quand faut-il prendre la décision de se faire aider peut-être autrement ?
Alors effectivement, quand on a un petit peu fait par soi-même, et on peut faire des choses par soi-même, peut-être en parlant à des amis pour aussi avoir des conseils un peu généraux, en essayant surtout des choses qu'on peut faire par soi-même aussi, c'est de supprimer toutes les fameuses vérifications. Donc on arrête d'aller sur les forums,
Internet,
etc.
Déjà, ouais.
Voilà, il faut essayer de se tenir à cette discipline. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à rien. Quand il y a besoin, on va voir son médecin traitant et si possible, un seul médecin, vraiment, c'est ça l'intérêt.
C'est ce et besoin, c'est quand? C'est-à-dire, on attend, je ne sais pas, 6 mois, un an,
non,
deux
non,
ans?
Non, non, je me dis quand on a des craintes sur des symptômes. Il vaut mieux consulter quand on pense que les symptômes, bon, on peut avoir, parce qu'on peut être malade aussi, hein, ça ne protège pas complètement. Et donc, le fait de pouvoir avoir un avis, de se tenir à un avis médical qui va vous expliquer, surtout le médecin qui vous connaît, donc vous ne pourrez pas dire, oui, il ne me connaît pas, il ne sait pas. Donc ça, c'est bon, des règles générales vraiment essentielles. Si vraiment on sent que, et le médecin lui-même sent que ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on a fait effectivement, après plusieurs mois d'habitude, parce qu'il ne faut peut-être pas s'alarmer tout de suite, mais il y a des psychologues ou des psychiatres qui peuvent être très utiles avec des méthodes très efficaces pour traiter aussi ce trouble.
C'est quoi ces méthodes? C'est des psychothérapies particulières, les TCC, c'est ça? Thérapie cognitivo-comportementale. Expliquez-nous en quoi ça consiste.
Oui, c'est ce qui marche le mieux, ce qui est le mieux codifié. En fait, thérapie comportementale, parce qu'on va changer le comportement. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer
comme dans les TOC, en fait,
se faisant aider, exactement, parce que c'est vraiment, il y a le même mécanisme de
compulsion
quasiment, de vérification. l'alimentation. Donc on va être accompagné pour essayer de modifier ces comportements. Et puis la partie qu'on appelle cognitive, c'est plutôt la connaissance des maladies, par exemple, recomprendre comment fonctionne son corps, parce qu'il y a parfois des idées qui sont un peu farfelues qu'on a dans la tête, et de prendre un peu de distance, ce que je disais tout
avec
à l'heure, de
ne
pas surinterpréter.
Hein,
voilà, alors l'exercice, ça peut être aussi s'entendre, se confronter à la réalité. Oui, vous avez mal quelque part, et même vous allez vous confronter à ça. Vous savez qu'il y a des maladies graves, donc on va leur faire lire des livres. Alors, vous dites, là, c'est quand on a vraiment besoin de faire une thérapie. Vous allez lire un chapitre sur une maladie que vous n'avez pas, mais vous savez qu'elle existe et il faut vous habituer à ça, tout bêtement. Donc, il y a une
forme
l'habituation,
c'est un peu comme la désensibilisation à une allergie, hein, c'est ça, Jimmy ?
À partir de quand peut-on voir une amélioration avec ces thérapies, justement ?
Normalement, c'est quelques mois, je dirais, parce que si c'est un trouble un peu chronique, ça ne va pas disparaître en quelques jours. Quelques mois, à condition d'être un peu assidu, c'est-à-dire qu'il faut y aller assez régulièrement et faire un certain nombre d'exercices, dans l'idéal toutes les semaines,
tous les 15 jours,
mais à condition d'avoir un suivi un peu régulier et de s'investir dans cette démarche.
Pour terminer, est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux contre l'hypochondrie ?
Alors, il n'y a pas une molécule anti-hypochondrie, malheureusement. Ce que l'on utilise parfois, mais je vous disais, il y a les limites des effets secondaires, de la tolérance, c'est plutôt les antidépresseurs, parce que lorsqu'on a une dépression évidemment associée, lorsqu'on a un trouble anxieux un peu sévère associé, ça fonctionne plutôt bien sur le long terme. Je vous disais, il y a le problème de ces effets secondaires, parce que très souvent, les personnes ont un peu peur de ces médicaments. Enfin, ils ont souvent très peur avant, et donc quand ils commencent à les prendre, c'est dur à mettre en place, mais ça peut être justifié dans pas mal de cas, et en tout cas pas les anxiolytiques, c'est toujours ce qu'on dit, les anxiolytiques, benzodiazépines, ça a un effet très transitoire, mais ça va revenir, donc on risque d'être exposé à une forme de dépendance.
Merci beaucoup professeur Pellissolo d'être venu sur notre plateau, grâce à vous on a tout compris sur ce qu'est réellement l'hypochondrie, un vrai trouble psychiatrique, qui peut d'ailleurs conduire à des symptômes réels, physiques, on vient d'en parler, mais il y a donc des solutions thérapeutiques, merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique, les mots du quotidien. Et on va parler d'une maladie chronique de l'œil, le glaucome. Savez-vous de quoi il s'agit ? Et savez-vous également que non traité, cela peut causer une cécité ? On va vous expliquer notamment quoi faire pour le dépister. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on parle du glaucome. Savez-vous ce qu'est précisément cette maladie de la vision ? Quels sont les signes qui doivent donner l'alerte ? Comment la dépiste-t-on ? Notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
J'en ai déjà entendu parler, mais je ne saurais pas l'expliquer.
C'est pas genre une accumulation de sang, un truc comme ça, enfin, je sais pas, au cerveau, ou quelque chose comme ça ?
Je visualise que c'est quelque chose de très moche, parce que c'est un nom très moche. Et qui toucherait un organe, ce serait l'estomac.
Difficile à expliquer, c'est lié à l'œil. Une bactérie que tu attrapes dans l'œil et qui te fait en fait une espèce de boule au niveau de la paupière. Ça fait très mal, apparemment.
Le glaucome, pour moi, c'est un cancer. Mais je dirais que c'est peut-être sur les yeux ou la vue ou quelque chose comme ça.
Je pense que c'est plutôt quelque chose qui vient avec l'âge, donc plutôt pour les personnes un peu plus âgées. Je pense qu'il faut opérer, parce que c'est quelque chose de grave, non ?
Ça fait partie des cancers, enfin moi j'ai déjà entendu parler, est-ce que c'est très répandu ? Je pense que ça l'est quand même beaucoup moins que le cancer du sein pour les femmes par exemple, qui fait partie des cancers les plus répandus, mais en tout cas ça fait partie des cancers connus.
Alors Dimi, on fait un point sur le glaucome à présent, maladie assez fréquente donc de la vision. Expliquez-nous ce que c'est précisément.
Donc le glaucome, c'est une maladie de l'œil, jusque-là tout va bien, qui est caractérisée par des lésions du nerf optique. C'est le nerf qui part de la rétine à l'arrière de l'œil et qui transporte les images jusqu'au cerveau. Dans le glaucome, les terminaisons nerveuses du nerf optique sont abîmées au niveau de la rétine et le nerf optique perd progressivement ses fibres. Il en résulte une atteinte progressive du champ de la vision. L'espace que voit l'œil se réduit petit à petit. La vision disparaît d'abord sur les côtés et au niveau du nez, mais la vision au centre est longtemps conservée. Et si les lésions progressent, évidemment, la vision centrale disparaît, qui peut conduire ensuite à la cécité.
Ok, on a compris à peu près là donc ce que c'est. Comment on l'explique, l'apparition de ce problème en fait ?
Le plus souvent, le glaucome, c'est lié à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. On appelle ça l'hypertension
oculaire. Vous en aviez parlé déjà une fois, je crois, de la pression oculaire.
Hein, exactement. Dans une minorité de cas, la pression est normale. Alors effectivement, on en avait parlé, mais à l'intérieur de l'œil, on a un liquide qui est produit en permanence, qu'on appelle l'humeur aqueuse. Cette humeur aqueuse, elle est évacuée au travers d'un petit filtre qui se situe à l'angle entre l'iris et la cornée, qu'on appelle le trabéculum. Si l'évacuation de ce liquide...
Encore un mot compliqué. Hein,
c'est des structures dans l'œil. Si l'évacuation de ce liquide est ralentie, la pression augmente et ce qui peut conduire à une altération des fibres du nerf optique.
Très bien, bah, malgré les mots compliqués, je crois qu'on a tout compris. Dimi, est-ce que c'est vraiment si fréquent que ça, en France par exemple ?
Alors le glaucome, ça touche 1 à 2% de la population de plus de 40 ans et environ 10% après 70 ans. Il y a 800 000 personnes en France qui sont traitées, mais 400 à 500 000 présenteraient la maladie sans le savoir.
Ah oui, ça c'est un problème quand même.
C'est une affection, cette affection est la seconde cause de cécité en France, juste après la DMLA.
La dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, vous nous avez dit que la pression oculaire était la cause principale du glaucome. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs éventuellement qui provoquent cette maladie ?
Oui, l'âge, évidemment. Le glaucome survient en général à partir de 40 ans et sa fréquence augmente avec du coup l'âge. La myopie, l'hérédité, le fait d'avoir des gens dans la famille augmente, qui ont un glaucome augmente votre risque. Et puis, certaines maladies, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'apnée du sommeil ou encore la prise prolongée notamment de corticoïdes augmenterait ce risque. Par ailleurs, on a observé que les populations à peau noire sont un peu plus touchées que les populations à peau blanche.
Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens en termes de dépistage de cette maladie ? J'imagine que le plus tôt, comme dans beaucoup d'autres, c'est le mieux. Hein.
Exactement, d'autant plus qu'au début, il n'y a peu de symptômes, c'est un mal silencieux. La gêne visuelle ou les douleurs au niveau de l'œil n'apparaissent que tardivement.
Oui, on est déjà bien atteint alors que le glaucome est installé depuis longtemps.
Et donc souvent,
longtemps,
il y a un retard diagnostique, raison pour laquelle il est plutôt conseillé d'aller voir régulièrement son ophtalmologiste avant d'avoir des symptômes. Et puis, il y a certaines personnes qui ont des facteurs de prédisposition qui seront suivis un peu plus fréquemment que les autres, même si au début, leur examen est normal.
Alors, juste pour terminer, qui doit se préoccuper de ce risque très concrètement ?
Alors, il faut consulter un ophtalmo si jamais vous avez un membre de votre famille qui
vous
a un glaucome.
Dit. On a c'est dit un facteur
qu'il y a
un risque
d'hérédité. Ouais. Si vous avez une myopie, on sait que plus la myopie est forte et plus vous avez un risque de glaucome. Et puis, si vous avez des pathologies cardiovasculaires, comme on en a parlé, l'hypertension, le diabète, l'apnée, si vous avez dû prendre des corticoïdes de façon prolongée, ce n'est pas une semaine au décours d'une bronchite ou d'une laryngite.
C'est quoi ?
C'est lorsque vous en prenez pendant des semaines ou des mois, ou de nombreuses cures pour des maladies inflammatoires.
L'asthme
ou des polyarthrites qui seraient mal contrôlées. Souvent, votre spécialiste vous oriente vers l'ophtalmo. Et puis après 40 ans, allez voir au moins une fois par an votre ophtalmo.
Merci beaucoup, docteur Dimi Mohamed, pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo avec notre sexologue Catherine Blanc. On va parler de la phobie des MST, des maladies sexuellement transmissibles qui perturbent la sexualité de certains. Mais d'abord, on va se faire du bien en musique. On écoute Madonna, ça s'appelle Secret.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Dimi Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Dimi.
Alors aujourd'hui Catherine, on va essayer de répondre à la question de Rémi. Rémi, il a 29 ans et il nous a écrit la chose suivante. Je suis attirée par les hommes et je suis toujours puceau. Ce n'est pas les occasions qui manquent, seulement j'ai une phobie des MST et je n'ose jamais aller plus loin au lit, même avec un préservatif. Comment faire ? Alors Catherine, d'abord, vous avez beaucoup de patients comme Rémi qui sont puceaux parce qu'ils ont, enfin d'ailleurs hétéro ou homosexuels, hein, parce qu'ils ont peur des maladies. Ça arrive ça ?
Alors c'est pas parce qu'ils ont peur des maladies qu'ils sont puceaux. C'est pas comme ça que ça se raconte. C'est qu'en réalité, c'est une peur de la sexualité qui se traduit au travers de, qui a trouvé au travers de l'expression de la maladie et des possibilités effectivement des MST pour s'exprimer et pour justifier du passage difficile. Les femmes, c'est rarement les MST qui passent en premier, mais plutôt la peur d'avoir mal. Mmh. Ou avant, c'était la peur de tomber enceinte.
C'est plus un truc d'homme, la peur de la MST, entre
MST,
guillemets.
MST, ça va être plus volontiers les garçons, parce que justement, les deux autres sujets les concernent un peu moins, ce qui est à tort d'ailleurs, mais les concernent un peu moins.
Jimmy ?
Parce que moi, j'ai plutôt le sentiment inverse, c'est que les gens ont de moins en moins peur des MST, au contraire, qu'il y a un relâchement notamment des comportements.
Oui,
mais
vrai.
Est-ce que le fait qu'ils soient attirés par les hommes, ça l'angoisse un peu plus en se disant que statistiquement, ce n'est pas du tout un jugement, mais il y a plus de risques d'attraper, d'avoir une MST lorsqu'on a des relations homosexuelles.
La prévalence de ces maladies-là est plus importante. Hein, ouais, bien sûr.
Est-ce que ça, c'est un facteur, on va dire, aggravant dans sa tête ou absolument pas ?
Je crois qu'en fait, c'est l'inverse qui se joue pour lui. C'est-à-dire qu'il y a une homosexualité qui cherche à aboutir et qui, comme par hasard, sous prétexte d'une phobie, n'aboutit pas. Donc, ça pose plutôt la question de la tranquillité d'assumer d'être homosexuel. Donc, c'est en fait la peur d'affirmation de l'homosexualité qui serait peut-être jugée par l'environnement, les parents ou que sais-je, comme étant une maladie honteuse et qui entraînerait une maladie. En fait, c'est plutôt dans ce sens que ça marche. C'est-à-dire, c'est plutôt la peur du regard, du jugement extérieur qui va évidemment punir l'homosexualité par une maladie qui sera la sentence, en quelque
sorte. Donc, c'est un peu une excuse, finalement. Enfin, une excuse sans vraiment juger,
oui,
évidemment.
Mais voilà, ça raconte, mais une excuse dans le sens, effectivement, où c'est la manifestation de la peur. C'est la manifestation de la peur du jugement, de la peur de faire face à soi-même et la réalité de son désir, qui, dans le cas de l'homosexualité, évidemment, a une valeur plus importante que dans le cas de l'hétérosexualité. Mais à d'autres époques, notre époque ne verrait pas de culpabilité à être en désir. Au contraire, on nous attend tous en désir. Mais à d'autres époques, une jeune fille qui aurait eu du désir aurait eu les mêmes angoisses et elle serait été l'angoisse de la grossesse. Et comme par hasard, à peine elle aurait fait l'amour, elle serait tombée enceinte.
Oui, bien sûr. D'accord.
Parce que c'est en fait. C'est,
ou une femme,
c'est,
elle pourrait c'est mettre une excuse aussi de la peur du sang, par exemple, parce qu'on sait qu'on saignait parfois la première fois.
Exactement.
Ça pourrait être ça, l'excuse, entre guillemets, d'une femme. Pour
voilà, mais parce que c'est pas facile de faire face à notre sexualité, à la singularité de notre sexualité et à ce que ça raconte de nous. Et dans le cadre, aujourd'hui, dans un monde plutôt très libre, ou en tout cas qui se veut libre sur le champ de la sexualité, évidemment que l'homosexualité, quand bien même elle est de façon générale accueillie, entendue et pas punie aujourd'hui, on ne va pas en prison, on ne subit pas des camisoles chimiques aujourd'hui pour l'homosexualité, fort heureusement, il n'empêche que le face-à-face avec soi et ce projet, dans le regard de nos parents, n'est pas chose aisée, parce que c'est tout un cheminement potentiellement de déception des parents qui peut amener justement à une idée d'être coupable.
Jimmy ?
Ce qui veut donc dire que quels que soient les moyens de protection qu'il pourra mettre en œuvre, préservatif, faire des bilans chez lui ou son partenaire, bah ça ne va absolument pas le rassurer. Il faut peut-être que, je ne sais pas, il trouve quelqu'un qui l'aime, non ? Pour avoir des rapports qui surviennent de façon naturelle. Parce que là, on a l'impression dans la question, c'est « je suis puceau, je dois passer à l'acte pour le faire ». Alors que peut-être que si ça vient progressivement, en trouvant quelqu'un qu'il aime, bah, ce sera peut-être plus simple.
Oui, à commencer par lui, qu'il s'aime dans son état homosexuel, dans sa lecture sexuelle homosexuelle, et qu'il fasse la paix avec lui-même suffisamment pour que justement il puisse trouver dans le regard et le désir et l'amour d'un autre homme la légitimité de cela et qu'il puisse apaiser les lieux de conflit qui sont peut-être autour de cette famille qu'il a vu grandir et qui attendait peut-être autre chose que ce qu'il devient ou ce vers quoi il semble tendre.
Et là, il a 29 ans, si je ne me trompe pas. Enfin, 29 ans, c'est inquiétant. Il faut qu'il consulte là, peut-être quand même, parce que 29 ans, être encore puceau, bon, enfin, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais
c'est un peu tard. C'est tard par rapport à la majorité des gens. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est tard dans l'absolu.
Rien n'est foutu, évidemment.
Cet homme va vivre très, très, très longtemps, je lui souhaite en tout cas, et il aura tout le loisir de vivre sa sexualité. Il se rira bien plus tard quant au jour de sa première fois.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans 100 rendez-vous, une émission consacrée à l'épilepsie. C'est la troisième maladie neurologique la plus fréquente derrière la migraine et les démences. Nous ferons donc le point sur cette pathologie qui touche près de 600 000 Français. Mais tout de suite, je cède la place à Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. Aujourd'hui, c'est un ancien de la maison qui nous accompagne. Son nouvel album sort demain. Vous connaissez évidemment son tube interplanétaire, La Tristitude. Oldelaf sera avec nous pour 2 heures de gaudrioles et de découvertes aussi.
Allez, merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une excellente émission et vous restez sur Europe 1.